RCF.
Bonjour à tous et bienvenue dans Grand Angle. Aujourd'hui, nous évoquons une parole, celle de Jésus, celle qui se transmet depuis des millénaires, depuis des générations, une parole vivante qui se dit, qui s'écrit, qui se dessine, qui se met en image et s'anime, une parole qui rejaillit dans ce très beau livre « Jésus, l'histoire d'une parole » qui vient de paraître aux éditions Bayard, sous la plume d'un écrivain, Frédéric Boyer. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes écrivain, traducteur, spécialiste des textes bibliques et auteur aux éditions POL. Et puis, donc « Jésus, l'histoire d'une parole », c'est aussi un roman graphique avec un dessinateur, Serge Bloch, qui est dessinateur, auteur de presse, édition dans les éditions EBD et Livre Jeunesse, chez Bayard, chez Gallimard, également illustrateur de presse pour La Croix, Télérama, The New York Times, The Wall Street Journal et bien d'autres. Nous aurons tout à l'heure Serge Bloch par téléphone et puis tout de suite, eh bien, nous évoquons Jésus, l'histoire d'une parole avec mon invité.
Grand Angle, proposé par Faustine Fayette.
Frédéric Boyer, merci de nous rejoindre donc aujourd'hui pour parler donc de ce livre, Jésus, l'histoire d'une parole. D'abord, peut-être, on peut revenir un peu sur la genèse de ce livre, puisqu'il il paraît après Les Récits fondateurs, qui est aussi donc un roman graphique, aussi une collaboration avec Serge Bloch. Tout ça, est-ce que c'était prévu de faire d'abord Les Récits fondateurs avec ces textes de l'Ancien Testament revisités, et ensuite Jésus, ou est-ce que c'est venu un peu progressivement au fil du travail ?
Non, c'est venu progressivement, mais... Parce que comme tous les projets, c'est un projet assez exceptionnel, hein. C'est une traversée qui a duré presque 4-5 ans, avec l'idée, parce que ce sont deux livres, mais c'est aussi toute une série de films d'animation, des épisodes de 4 minutes. Dans la première série, en quelque sorte, les récits fondateurs qui effectivement traversent tout l'Ancien Testament, il y a 35 épisodes, et puis avec Jésus, on a fait 12 épisodes. Et donc c'est l'origine du projet, c'était des films de 4 minutes. Par épisode, pour raconter, pour plonger dans la matière biblique en quelque sorte. Donc c'est une forme d'initiation, à la fois par le dessin et par les mots et par l'animation, donc pour redécouvrir ce qui fait l'originalité de ces récits et comment ces récits pouvaient encore s'adresser aux uns et aux autres aujourd'hui. Voilà. Alors on a commencé par l'Ancien Testament, enfin le Premier Testament. Et puis, au fil de notre travail, on s'est posé la question de poursuivre, en sachant que c'est pas la même chose et que
oui,
le Nouveau Testament, d'abord, c'est
vraiment un autre ton.
C'est un autre ensemble de livres, c'est effectivement une autre intention. Et donc, pendant un moment, on n'a pas su comment reprendre, comment poursuivre. Et puis, en travaillant et en discutant avec Serge, on est arrivé à cette proposition. Voilà.
Alors, aujourd'hui, travailler comme ça des textes sacrés, l'écriture sainte, retravailler ça, souvent on entend des chrétiens qui n'osent pas en fait peut-être revisiter comme ça des textes qui connaissent par cœur, qu'on leur a transmis. Il y a des passages de l'évangile parfois qu'on connaît vraiment.
Qu'on croit connaître
peut-être. aujourd'hui, retravailler un tel texte au 21e siècle, qu'est-ce que ça dit ? Pourquoi ?
Non, mais on va reprendre un peu à l'envers. Moi, je comprends les réticences ou les interrogations des uns et des autres. Ce sont les miennes aussi. Mais ça s'est toujours fait. C'est-à-dire que l'histoire de la chrétienté, c'est exactement ce que vous êtes en train de décrire. C'est-à-dire, c'est pas nous aujourd'hui, parce qu'on est au 21e siècle, qui avons décidé de re-raconter. Ça s'est toujours fait. C'est-à-dire que la transmission de notre foi, de ce qu'on appelle le patrimoine de la chrétienté, s'est fait comme ça, précisément. C'est-à-dire, c'est fait par des formes de reprise, de réinterprétation, de plongée à travers l'art. On va pas expliquer, tout le monde le sait, comment l'art a été dans toute l'Europe, notamment toute l'Europe médiévale, un formidable vecteur de transmission des récits et de la parole, mais aussi à travers la littérature, à travers des tas de formes, effectivement. Pourquoi ? Parce que D'abord parce que ces récits ont toujours été interprétés. Ils ont été traduits, ils ont été commentés, ils ont été lus, ils ont été, ils sont repris dans, ne serait-ce que dans la prédication. Hein. La prédication est le premier vecteur qui revisite ces récits et cette parole pour la faire entendre, pour l'expliquer ou pour la partager, tout simplement. C'est une parole à partager. Quand vous partagez quelque chose, eh bien, vous la transmettez. Quand vous transmettez, eh bien, vous, effectivement, vous parlez avec vos propres mots, vous essayez de revisiter les choses et de faire en sorte que les autres en face de vous et avec vous puissent partager ce que vous êtes en train de découvrir et ce que vous avez appris ou ce que vous cherchez ou les questions que vous posez. Donc pour moi c'est aussi c'est la même chose quand on me pose pourquoi une nouvelle traduction de la Bible. Eh ben parce qu'on l'a toujours fait parce que toute génération doit revisiter avec sa propre langue les textes qu'elle considère comme fondateurs.
Alors justement, vous ouvrez, enfin, le livre s'ouvre sur ces quelques phrases. Nous n'avons pas voulu raconter les évangiles ni écrire une vie de Jésus. Nous avons voulu raconter le trésor de cette parole rapportée il y a plus de 2000 ans et la mémoire qui en a été faite. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la transmission, de l'ordre de presque ce qui fait en fait l'identité de l'Église. On parle souvent de cette tradition, ce qui se transmet à l'oral. C'est ça le titre, c'est ce qui est dit dans le titre, Histoire d'une parole.
Oui, alors le titre, il peut apparaître banal, en fait, il est assez compliqué. D'abord, effectivement, on n'a pas voulu faire une vie de Jésus, il y en a eu beaucoup et il y en aura encore, et il y en a des magnifiques. Et on n'a pas voulu non plus raconter le Nouveau Testament, puisque c'est un ensemble de livres complexes, etc. Bon, on aurait pu le faire, mais c'était un tout autre projet. Donc on s'est posé plusieurs questions et l'idée a été de transmettre la façon dont nous recevions ces textes-là, donc des évangiles, des quatre évangiles, et comment on les traverse, et une fois qu'on les a traversés, qu'est-ce qu'on retient de à la fois de ces récits et de cette parole, effectivement. Donc moi, j'ai un peu procédé par intensité, si vous voulez. Quelles sont les grandes intensités de cette parole? Qu'est-ce qu'on retient? Donc, effectivement, on ne pouvait pas être exhaustif, puisqu'on n'a pas voulu. Donc, tous les épisodes des évangiles n'y sont pas.
Donc, il y en a 12.
Voilà. Non, mais il y a 12 épisodes, mais il y a plein d'épisodes des évangiles qui n'y sont pas, parce qu'on ne pouvait pas faire ça. Mais on a voulu... moi, j'ai découpé... En quelque sorte, j'ai fait une progression comme ça, qui quand même avance dans l'histoire évangélique depuis l'annonce du Messie, sa naissance et puis sa vie publique et jusqu'à sa mort et au témoignage de sa résurrection. Mais moi j'ai procédé par grandes intensités de ce que cette parole transmettait, c'est-à-dire, je sais pas, par exemple le rapport à la compassion, le rapport à l'attente, le rapport au plus petit, au plus faible, etc. La question de l'épreuve, de la traversée jusqu'à la mort, etc. Voilà. Donc, c'est les intensités. Et chaque grand thème, chaque grande intensité, pour moi, devait résonner un peu encore aujourd'hui. C'est-à-dire que la question de l'espérance, de l'attente, on se la pose aussi. La question de l'épreuve, on se pose aussi cette question du rapport au plus petit que nous, au plus faible que nous, ou au malade. Enfin, aujourd'hui, c'est des questions qu'on se pose. Et donc, je voulais que ces grandes paroles, un peu que ces grands thèmes, un peu anthropologiques, finalement, puissent être repris comme ça dans la traversée de l'Évangile.
Vous aviez dit d'ailleurs à l'occasion de la sortie des récits fondateurs, j'ai voulu montrer que raconter la Bible, c'est toujours raconter quelque chose de nous. Et là, on le voit bien peut-être dans ce que vous dites, vous n'êtes pas dit, tiens, je vais travailler tel évangile de Saint-Marc ou tel évangile de Saint-Matthieu, c'est plutôt, je me laisse travailler aussi par cette parole, et voici ce qui en sort, et ce qui en sort peut-être de ce qui vous traverse, c'est ce qui nous traverse tous, en fait, ce que vous dites, c'est ces grands thèmes, c'est finalement notre humanité, et ce qui résonne, c'est votre base de travail, en fait, ce sont ces grands thèmes.
Bien sûr, et puis alors évidemment... Pourquoi l'histoire d'une parole? Parce que, vous dites c'est la parole de Jésus, c'est vrai, c'est la parole de Jésus, mais c'est aussi la transmission de la parole, celle qui est déjà au principe, au commencement, celle qui crée le monde en parlant, en nommant, c'est la parole qui a été effectivement cette parole qui a été notre patrimoine, notre matrice en quelque sorte. Celle des prophètes, celle des pères avant Jésus. Et d'ailleurs, l'évangile se construit comme cela, dans ce rapport à cette parole. C'est avant d'être la parole de Jésus, c'est la parole que Jésus incarne et que Jésus va parler justement et dont Jésus va débattre avec les siens et avec le monde dans lequel il a vécu. Hein, les évangiles, c'est une succession de discussions et de débats sur la parole. Ça aussi, on le dit rarement, mais c'est que la parole est reçue, mais on a le droit de dire qu'on comprend pas la parole. On a le droit de dire qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire avec cette parole. C'est exactement la problématique de l'évangile. Voilà. Tu as appris ça, tu sais ça. On t'a dit ça. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avec ça? Voilà.
C'est Jésus qui questionne beaucoup.
Mais, bien sûr, c'est Jésus qui questionne beaucoup, mais il faut le reconnaître. Hein, c'est aussi tout l'enseignement même du judaïsme ancien, même du judaïsme, qui était comme ça fondé sur la discussion, c'est-à-dire le partage de la parole se fait par la discussion. Souvent, les chrétiens, on a un peu de mal avec ça. Voilà. Mais la discussion, elle est vive. Elle est au sens où c'est de discuter de la parole qui va permettre que l'on s'approprie la parole, qu'on la comprenne et qu'on l'entende en nous. Voilà. Et donc effectivement, c'était important pour moi de trouver toutes les résonances possibles avec nos existences, puisque c'est aussi de ça dont il est question dans l'Évangile.
Alors, après cette introduction, ce que moi j'ai trouvé assez fort, c'est deux trois pages qui ouvrent aussi le livre. Avec voilà, pour les auditeurs qui n'ont pas le livre sous les yeux comme moi, il y a deux trois mots en gros en rouge. Alors la première page, on voit un personnage commun à Paris. Je tourne la page. Peu à peu hors du commun, dont l'étrangeté comme la douceur. La tendresse comme la radicalité, on nourrit les histoires que l'on a racontées sur lui. Qu'est-ce que ça dit? Pourquoi ce choix?
D'abord, il fallait lancer quelque chose, il fallait amorcer cette aventure-là. Et donc, effectivement, j'essaie en une phrase, c'est pas tellement résumé, mais de donner le ton du livre. Et le ton du livre, c'est qu'effectivement, quelqu'un apparaît, quelqu'un finalement d'assez familier, d'assez ordinaire, comme nous tous, hein, puisqu'il est, comme on dit, il est venu parmi nous et c'était un parmi nous. Et progressivement, effectivement, quelque chose va se passer, c'est-à-dire que cette personne commune, finalement, progressivement va paraître de plus en plus hors du commun. Et effectivement, ce qu'elle va dire, à la fois de avec beaucoup d'amour et de compassion, mais aussi des choses assez mystérieuses encore aujourd'hui que l'on ne comprend pas forcément tout de suite, et aussi une certaine radicalité dans ses propos. Voilà, et c'est cette incarnation là de la parole qui est pour moi le sel et la matrice de ce qu'on appelle l'Évangile.
Alors, dans votre parcours, vous avez fait une thèse, il me semble, en littérature comparée. Vous avez travaillé sur les récits bibliques et puis sur leur influence sur la narration. Et je trouve, en lisant, en parcourant ces pages, on a l'impression, en tout cas moi je l'ai reçu comme ça, comme si c'était un conte à la fois incarné. Parce qu'on sent bien que c'est incarné, et puis les dessins en plus apportent cette incarnation, et en même temps assez philosophique, ne serait-ce que parce que vous avez évoqué tout à l'heure ces grands thèmes qui sont un peu les chapitrages. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette lecture? Est-ce que c'est volontaire?
Oui, d'une certaine façon, mais en tout cas j'aime bien le mot conte, même si tout l'Évangile ne se résume pas à ça, mais toute la littérature, parce que on part de textes qui appartiennent à la littérature de l'Antiquité. Ça aussi, ça permet de comprendre ce qu'on a en face de nous. Toute la littérature de l'Antiquité était écrite pour être lue, pour être dite, pour être récitée. Et les évangiles n'échappent pas à ça. Donc, il y a une forme, effectivement, orale qui peut rappeler, effectivement, les méthodes de narration, du conte, de la prédication aussi, puisqu'on est aussi dans le domaine de la prédication, mais c'est vrai qu'il y a la puissance de quelque chose qui est de l'ordre du conte dit aux uns et aux autres dans les évangiles, bien sûr.
Oui. Et alors, vous, quand vous avez écrit, est-ce que vous adressez à... Parce qu'on parle souvent, on dit « je m'adresse à quelqu'un en particulier ». Est-ce que vous imaginez un lecteur, ou est-ce que non, c'est vraiment parce que ça doit sortir de vous, quoi?
Non, on imagine toujours un lecteur. Mais ce lecteur, j'ai envie de dire, hélas, on l'imagine, mais nous l'imaginons. Donc, je ne sais pas s'il est, on se le représente en fonction de ce qu'on a envie de dire et de faire. On se le
représente. Vous dites pas, j'écris pour quelqu'un qui est pas chrétien, ou j'écris pour
alors,
un chrétien.
Non,
ou...
ça, c'est une autre question qui est importante. c'est que d'abord, on travaille à deux. Ce qui est important, qu'on n'a pas encore dit, mais
oui.
il faut le dire, c'est que j'étais pas seul. J'ai travaillé véritablement avec un illustrateur, avec un artiste, et donc le choix des mots et même le choix du découpage, le choix même formel de ce qu'on du récit lui-même était conditionné aussi par le fait que un illustrateur s'emparait de ça et devait le mettre en image. Mmh. Et c'est pas évident parce que on a eu une première question toute simple, c'est comment représenter Jésus.
Voilà. Ben, alors, ouais.
Peut-être que lui en parlera
en plus, ça, c'est une
tout
question,
à l'heure, mais voilà.
Donc, mais
on s'est posé plein de questions comme ça. Donc effectivement, si le texte donne cette impression de quelque chose d'oral, de conte, de un peu de livre de sagesse, ça c'est volontaire effectivement. Et moi, je me suis pas dit que je m'adressais uniquement à des chrétiens. D'abord, je pense que c'est pas bien de dire ça. Je pense que, en tout cas, quand on essaie précisément de partager ce qu'on a à cœur, c'est-à-dire la lecture de la parole de Dieu, eh bien, j'engage tout le monde à se dire qu'on en parle à tous, voilà, et pas seulement à ceux, à notre propre communauté, même si c'est très important. Mais ce travail-là, d'essayer de transcrire cette parole en direction de tous, c'est un effort indispensable et utile et qui est, je trouve, moi, très enrichissant. Voilà. Et de fait, celui qui travaille avec moi, Serge Bloch, ne se dit pas chrétien, même s'il connaît bien.
Et c'est ce que j'allais
chrétien.
Dire.
Donc, effectivement, ouais. On devait bien travailler ensemble, et cet ensemble-là était à la fois exigeant et excitant finalement.
Le partage dont vous parliez tout à l'heure sur justement le partager la parole, il était déjà dans votre travail avec Serge Bloch. Alors justement, peut-être un peu plus concrètement, comment s'est mis en place ce travail ? Est-ce que vous écrivez d'abord, ensuite vous lui passez le texte, il vous fait des propositions d'illustration ? Est-ce que quand vous écrivez, vous imaginez déjà, vous, un découpage, comment...
Oui, alors on était déjà rodés, puisqu'on avait déjà fait
avec
tout,
les récits fondateurs.
Tout l'Ancien Testament, donc c'était... Mais en fait, alors là, c'était plus délicat, parce que souvent, dans le Premier Testament, on a des récits qui s'apparentent un peu à l'épopée, à l'histoire, à la légende, et donc c'était plus facile. Là, on est un peu moins dans cet ordre-là littéraire. Donc ce que je faisais, c'est de toute façon, d'abord, moi, je faisais une première version d'un texte, et ensuite, il le lisait et on discutait ensemble. Il commençait à travailler, mais l'écriture globale, à la fois des textes et des dessins, ne finissait qu'au bout du travail commun. Voilà. Donc, il m'arrivait toujours de reprendre des choses ou de redévelopper des choses ou de raccourcir souvent. Voilà, puisque les dessins essayaient effectivement. Les dessins sont pas des pures illustrations du texte. C'est ce qui est intéressant. C'est les dessins aussi sont une forme d'interprétation. Oui. De ce qu'on essayait de dire. Voilà.
Est-ce que d'ailleurs, est-ce qu'il y a des dessins qui vous ont surpris, étonné, ou vous êtes dit, bah tiens, ça ajoute quelque chose, enfin, un dessin qui vous a particulièrement marqué que...
Oui, beaucoup,
que
parce
Bloch.
Que, comme vous l'avez dit aussi, le texte, moi j'ai voulu faire un texte, bah, j'espère qu'il est un peu exigeant aussi, j'ai pas voulu, donc il y a des concepts, il y a des valeurs, il y a des mots,
donc,
même
dessiner,
il y a des expressions qui sont parfois soit peut-être théologique ou philosophique ou voilà, et donc c'est difficile à illustrer, et il m'a toujours étonné effectivement, parce que quand par exemple, comment illustrer le pardon, par exemple, c'est quelque chose de pas évident. Donc, je me souviens de ses deux mains comme ça qui se en grand. Il a un trait qui est très libre et qui peut être facilement abstrait, mais finalement, cette abstraction, elle devient sensible. Voilà, dans ce travail-là.
La caractéristique un peu des dessins de Serge Bloch, je trouve, c'est traits en fait qui en fait du coup ont une grande puissance, une grande force.
Oui, qui arrive à dire finalement au-delà de l'illustration elle-même.
Donc en quelques traits.
Force, ouais.
Ce livre, c'est vraiment, on a à chaque fois une phrase, un dessin. Donc c'est vraiment, j'insiste là-dessus parce que bon, on est à la radio, donc c'est pas évident. Mais pour que chacun se représente, voilà, il y a un dessin et dessous une phrase. Et là, j'ai ouvert une page qui justement reprend tout ce qu'on a dit un peu sur la parole. On est dans la partie qui s'appelle miracle. c'est la guérison de la fille du soldat. Il prend la main de la jeune fille qui se réveille alors doucement. Donc voilà, ça c'est le début de la page. Donc on voit Jésus hein, qui tient la main de cette jeune fille. Mais après, il y a une partie effectivement plus abstraite. Pour lui, la mort n'est jamais la fin de nos histoires et la parole sauve. Et donc voilà, on voit ces deux personnages et une sorte de trait rouge qui sort de la bouche de la jeune fille. La parole est vivante.
Non, voilà. Mais parce que pour moi, c'était important de montrer que ces textes, comment dire, c'était pas simplement des petites histoires et voilà, et que bien sûr, quand on les lit, on est saisi, on est ému, mais ces histoires ont un sens et ces histoires ont une force en elles-mêmes, même elles provoque une sorte d'action, et qu'effectivement, un récit de miracle où Jésus, il y en a quelques-uns dans les évangiles, où Jésus ramène à la vie une personne, comme cette petite fille qui est apparemment morte, ou Lazare, etc., eh bien, c'est, d'abord, ça prépare quelque chose, sa propre mort et résurrection, mais tout de suite, ça inscrit quelque chose, un message qui est d'une grande beauté, c'est-à-dire qu'effectivement, la mort n'est pas la fin de nos histoires, voilà, et quelque chose peut se passer au-delà de la mort, et peut se passer à travers la mort même. Et donc, c'est, en fait, ça donne exactement la façon dont j'ai voulu travailler. C'est-à-dire, j'ai voulu raconter, assez simplement d'ailleurs, et en même temps donner, à chaque fois, donner un des sens, une des significations, mais de ces récits.
Ça permet de se replonger peut-être dans des récits où parfois on a gardé un peu, comme vous disiez, un peu la petite histoire. Bon, ben voilà, on connaît par cœur en fait les histoires des évangiles pour certains.
Oui, mais,
on peut perdre un peu la force de la signification qu'il y a derrière.
Oui, ça peut être ça, effectivement. Et puis ça donne aussi, juste à notre niveau, hein, mais un exemple de l'écho que ces histoires peuvent avoir en nous. Et vous n'avez qu'à penser à des grandes représentations dans l'histoire iconographique de la chrétienté. Et c'est vrai que les tableaux eux-mêmes racontent quelque chose. Enfin voilà, au-delà même du texte évangélique lui-même. Enfin, c'est...
Et alors, ce travail-là, là, vous avez travaillé combien de temps ? Ça a démarré quand ?
Ce livre-là, on a mis à peu près 2 ans et demi, voilà, et l'autre 3 ans, donc ça fait un peu plus de 5 ans qu'on travaille ensemble là-dessus.
5 ans de traversée des textes. Ouais. Nous évoquons aujourd'hui Jésus, l'histoire d'une parole, un beau livre paru aux éditions Bayard. Nous en parlons avec Frédéric Boyer. On se retrouve dans quelques instants.
Entrons dans la nuit, en cette nuit bénie, où le salut du monde a resplendi. Entrons l'adorer, l'enfant Dieu est né, le Verbe incarné vient nous sourire. Emmanuel, 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 Emmanuel,
Glorious. Et nous écoutons cela parce que aujourd'hui, dans Grand Angle, nous évoquons l'Emmanuel Jésus. Jésus, l'histoire d'une parole. C'est un livre paru aux éditions Bayard.
RCF, Faustine Fayette.
Alors avec moi pour parler de ce beau livre, Jésus, l'histoire d'une parole, Frédéric Boyer, donc écrivain et spécialiste des textes bibliques. Et puis, alors j'aurais bien aimé pouvoir échanger avec vous et Serge Bloch, maintenant, mais Serge Bloch n'était pas disponible. Alors je l'ai interviewé ce matin, et donc voilà, je lui ai posé quelques questions sur son travail, sur ce récit graphique. Donc Jésus, l'histoire d'une parole. Je vous laisse écouter ses réponses et puis on en reparlera après. Bonjour Serge Bloch.
Bonjour.
Donc vous avez collaboré évidemment à ce livre en tant que dessinateur et puis c'est vraiment un roman graphique hein. Donc à la fois la partie écrite et la partie dessin, ça fait vraiment toute l'œuvre, donc tout cet ouvrage de Jésus, l'histoire d'une parole. Alors j'avais quelques questions à vous poser aujourd'hui sur tout ce travail, notamment qu'est-ce qui est de l'ordre en fait de la continuité dans votre travail d'illustrateur, de la continuité par rapport au récit fondateur que vous aviez également illustré et travaillé avec Frédéric Boyer. Et qu'est-ce qui est nouveau aussi pour vous dans l'illustration ?
Alors, mais c'est évident que c'est la continuité de ce premier livre qu'on a fait ensemble, Frédéric et moi, et du travail qui l'a accompagné, parce que c'était, comme vous le savez, c'était un livre, je parle des récits fondateurs, c'est un livre, mais pour Jésus aussi. C'est un livre, c'est aussi une série de dessins animés. En fait, l'idée, c'était de l'éditeur de Bayard, c'était de faire une œuvre bimédia, en tout cas, de mettre au départ plutôt l'accent sur l'audiovisuel, mais notre naturel qui est de faire des livres on a commencé quand même par faire le livre qui a servi de Bible pour le dessin animé. Qui est un jeu de mots, mais qui est vrai.
Et donc, alors, du coup, sur le Jésus ?
Alors, Jésus, c'est pareil. Ça a été... La seule différence, c'est que pour Jésus, je ne me suis pas trop investi. Je n'ai pas, pas réalisé, alors que pour l'Ancien Testament, j'avais réalisé les dessins animés. Là, non, je me suis juste contenté d'aider Antoine, qui a brillamment animé tout ça. Pour revenir à votre question, c'est sûr que ma première idée, c'était de faire cet Ancien Testament parce que c'était des histoires que je connaissais il y a longtemps et je trouvais assez plaisant de les mettre en image avec Frédéric au texte. Parce que d'abord, les écritures de Frédéric sont quand même assez fortes et ces histoires le sont encore plus. Donc tout ça, ça m'a emmené. Et pour Jésus... tout autant eu de plaisir. C'est plus un livre... ce sont un peu comme des... Bon, les textes Frédéric sont très poétiques, donc pour moi, c'est comme des poèmes visuels.
Et dans la nouveauté, par exemple, il y a le personnage de Jésus, notamment, qui arrive. Comment vous l'avez traité ?
En fait, je voulais surtout pas faire un Jésus de cliché, enfin, une espèce de barbu, en robe longue, etc., qu'on représente tout le temps. C'est une vision assez
classique. Hein.
Assez classique. Ouais. Je voulais surtout pas rentrer dans ce genre de représentation parce que je pense que là, je voulais surtout suivre le texte de Frédéric qui disait que c'était quelqu'un comme tout le monde qui arrivait. Donc, au contraire, je l'ai fait comme un petit bonhomme qu'on reconnaissait pas du tout au début, au point qu'il a fallu pour l'identifier que je lui mette une tache de couleur.
Alors, justement, cette couleur, on voit que vous utilisez d'abord peu de couleurs. Et un peu avec parcimonie, c'est un peu saupoudré, mais il y a du sens. Cette couleur, effectivement, rouge de Jésus, pourquoi choisir cette couleur? Et on la retrouve aussi sur d'autres choses, parfois sur des collages, enfin du travail où vous réutilisez d'autres images, mais qui sont colorées en rouge. Il y a une signification derrière pour vous?
Je ne sais pas, peut-être inconsciente. En tout cas, c'est la couleur du sang, c'est une couleur forte, c'est une couleur... C'est une couleur que j'utilise beaucoup, de toute façon, même si j'utilise peu de couleurs, c'est une couleur que j'utilise beaucoup. Ça fait peut-être une des deux, trois couleurs que j'utilise dans mon travail.
Il y a le vert aussi que vous utilisez, qui a une autre signification ou pas particulièrement? C'est simplement un jeu de couleurs qui s'assemble bien?
Il n'y a pas une signification vraiment précise à l'emploi d'une couleur. Je crois que ce qui m'intéresse, moi, c'est de, à part le fait que j'ai mis un fil rouge sur Jésus pour qu'on le suive tout au long des chapitres, comme il changeait de forme pour de plus en plus ressembler d'ailleurs à Jésus plus classique. C'est comme s'il se révélait d'ailleurs. Malgré moi, non, j'utilise les couleurs pour la poésie de la couleur.
Et alors, le titre de cet ouvrage, c'est « Jésus, l'histoire d'une parole ». La parole, comment on l'illustre? Comment on dessine la parole, en fait?
D'abord, quand on est illustrateur, on illustre tout le temps des paroles, puisque les textes, ce sont quand même beaucoup de très souvent des dialogues. Tout ça. Non, il y a pas, c'est un jeu de mots. La parole telle que je l'ai représentée dans ce livre, c'est comme un souffle qui traverse le bouquin. C'était dans le texte de Frédéric, d'ailleurs, la parole était comme un souffle. De toute façon, ça fait partie d'un vocabulaire que j'utilise depuis longtemps, une espèce de fil qui peut accompagner l'histoire.
Alors, quel est le passage qui vous a donné le plus de fil à retordre?
Peut-être, mais en fait j'ai biaisé, peut-être la crucifixion, parce que c'était... En fait, Frédéric avait déjà plus suggéré que raconté, parce qu'on voulait pas... Il ne voulait pas non plus qu'on tombe dans un livre d'images trop lues et revues. Ça me posait problème. En tout cas, je voulais essayer d'éviter ça. Et je l'ai suggéré puisque je l'ai illustré.
Et alors, comment vous l'avez illustré?
En la suggérant. Légèrement, en regardant à une certaine distance, en passant juste peut-être un visage. Et autrement, je reste assez loin de la colline.
Et le passage qui a été le plus facile, qui vous a paru comme une évidence à dessiner?
Honnêtement, j'ai un souvenir de plaisir, donc de bout en bout, parce que moi j'aime bien travailler avec Frédéric. Ça fait alors quelques années qu'on le fait, et j'avoue que je peux pas dire qu'il y a un moment plus particulier, mais c'est plutôt l'ensemble qui est plaisant. C'est facile d'ailleurs en plus, parce que travailler avec Frédéric. Quand on est porté, moi j'ai la chance dans ma vie de dessinateur d'accompagner des tailles de gens qui avaient du talent. Et ça a été une vraie en jeunesse. J'ai souvent travailler avec de bons auteurs, ou là pour le coup.
Et puis une habitude peut-être de travail, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment vous connaissez bien et donc peut-être. Voilà, vous savez aussi peut-être ce qu'il attend plus facilement ou ce qui va coller à ses mots.
Non, mais je crois que Frédéric, on n'a jamais discuté, si on discutait du sens des choses, mais autrement, il n'a jamais émis sauf si je me trompais dans la narration, il n'a jamais émis de désir particulier d'image. C'est vraiment une complicité, je sais pas, on a pas besoin de...
Il y a une grande liberté dans votre travail.
Oui. De la part de l'éditeur aussi, parce que d'ailleurs, a été assez chouette aussi. Ils ne vont jamais, je pense, enfin Frédéric peut-être.
Ça, c'est agréable.
Sur le texte, peut-être il a eu plus besoin de collaboration et de critique. Moi, sur le dessin, j'ai eu aucune censure, que des remarques amicales et enthousiastes. Hein, c'était...
Alors, si Noël, si on sort un petit peu du livre, vous, en tant qu'illustrateur, en tant que dessinateur, Si Noël, si même l'année 2020 était à dessiner, voilà, ça serait quoi pour vous, si Noël 2020 était à dessiner?
Noël 2020, c'est Noël 2020, bon, moi Noël, c'est pas un sujet que je maîtrise bien pour plein de raisons.
Alors, mais l'année 2020 qui a été si particulière.
C'est une année très particulière. Enfin, j'aimerais surtout dessiner 2021 qui ne ressemble pas à 2020, voilà.
Très bien. Alors 2021, un trait.
Alors qu'on puisse respirer.
Une respiration, oui.
Tous respirer.
La respiration qui va avec le souffle de la parole dont vous parliez peut-être tout à l'heure.
Qu'on puisse parler, qu'on puisse se parler en présentiel. Qu'on puisse se toucher.
C'est votre souhait pour 2020. En tout cas, merci pour 2021, pardon. Merci Serge Bloch d'avoir pu nous éclairer un petit peu sur votre travail, donc sur ce livre Jésus, l'histoire d'une parole. Merci et très bonne fête.
Vous aussi.
Voilà donc les quelques questions posées à Serge Bloch qui a travaillé avec vous, Frédéric Boyer, donc sur Jésus, l'histoire d'une parole. Vos premières réactions, je vous entendais sourire parfois, rire et sourire, par rapport à ce qu'il dit. Alors peut-être, j'ai noté 2-3 choses quand il parle de Jésus, par exemple, son illustration de Jésus, et vous en parliez aussi tout à l'heure, c'est une personne parmi nous, personne commune, et qui voulait pas la dessiner de manière classique. Et il dit, c'est assez amusant, il dit que finalement, au fil de l'œuvre, elle devient de plus en plus classique comme une révélation. C'est étonnant, en fait.
Oui, c'est vrai, ça nous a un peu surpris et un peu dépassé, mais ce qui était important au départ, c'était qu'on voulait pas tout de suite représenter Jésus. D'ailleurs, dans les textes, il n'est pas reconnu, il est reconnu par quelques-uns, mais il est plutôt pas reconnu. Et qu'est-ce que c'est? Il passe de synagogue, il va au temple et il discute. On l'appelle rabbi, donc effectivement, c'est un rabbi comme il y en avait des milliers à l'époque en Galilée et en Judée. Donc, c'était pas particulièrement quelqu'un. Donc, c'était important. Et puis, moi, j'aimais bien l'idée, effectivement, que ce soit un petit personnage qu'on ne repère pas. Mais du coup, comme l'a expliqué très bien Serge, il fallait quand même qu'on le repère d'un point de vue graphique. Donc, il a eu cette idée du fil rouge. Et qui est devenu, oui, une sorte d'illustration symbolique de la parole, justement. Puisque ce petit personnage, il ne va exister et il ne va, en quelque sorte, il va se densifier qu'à mesure qu'il parle. Enfin, et c'est cette transmission de la parole qui, peu à peu, va le faire apparaître. Et effectivement, à la fin, notamment devant des récits lourds comme ça, comme le récit de la crucifixion, il approche davantage une représentation traditionnelle, voilà, sans tout à fait tomber dedans, mais c'est assez beau comme mouvement dans l'illustration du livre, effectivement.
Alors, il parle beaucoup du plaisir qu'il a eu à travailler sur ce livre, sur ces illustrations, une facilité aussi, et de la liberté. Alors, je me demandais en l'écoutant, je me disais peut-être que vous, quand vous lui remettez un peu le texte, quand vous lui passez des choses, peut-être que vous attendez avec impatience ses dessins. Dites, tiens, comment il va,
oui, tout à fait,
comment il va dessiner ça?
Oui, tout à fait. Mais comme je dis, on avait travaillé déjà 3 ans ensemble avant sur quand même une somme assez impressionnante, hein, sur l'Ancien Testament. Donc on avait l'habitude. Mais effectivement, à chaque fois que je rendais le texte, j'attendais avec impatience ses dessins. Et c'est vrai qu'il a un trait extrêmement original, à la fois facile d'ailleurs, hein, c'est pas quelque chose de très compliqué, même si c'est parfois abstrait, c'est très lisible, c'est très graphique en fait. Et ça, c'est une grande force. Et c'est vrai, il a raison quand il dit qu'on discutait beaucoup de peut-être de ce que parfois, oui, lui m'interrogeait parfois sur ce que j'entendais à travers les mots que je lui présentais. Mais après, il y a un travail qui s'est fondé sur une forme de complicité. Et on ne sait pas, c'était quelque chose d'assez facile et d'assez joyeux. Et lui, mettant, il faut le dire quand même, mais mettant ce que je n'ai pas, hélas, moi, mais mettant à chaque fois une une petite distance humoristique, pas tout le temps, mais en tout cas dès que c'est possible. Et ça donne une grande tendresse en fait à l'ensemble. C'est ça qui est intéressant.
Ça vous est arrivé de changer quelques mots suite à une discussion avec lui, suite à un échange que vous avez?
Oui, ou par rapport à des dessins ou au rythme dessin texte, bien sûr. Oui, j'ai pu changer des mots. Voilà.
Alors il dit que lui, en tout cas, il s'est senti très libre dans ses dessins et très libre vis-à-vis de l'éditeur. Vous êtes déjà peut-être, quand on écrit, parfois on s'autocensure. Alors je ne sais pas si vous êtes assez libre vis-à-vis de votre propre écriture. Assez libre
non,
aussi dans les...
Non, moi je me suis senti complètement libre. Après, bien sûr que il ne s'agissait pas de raconter n'importe quoi. Mais vous voyez bien que le texte est libre puisque... On a pris un parti pris d'ailleurs qui est assez audacieux, hein, puisque parfois qu'on peut trouver difficile, en tout cas au niveau du texte, puisqu'on n'a pas voulu raconter stricto sensu les choses, mais
ça c'est déjà effectivement un parti pris.
Voilà, on a essayé de l'interpréter. J'ai essayé de l'interpréter avec mes mots et avec mes propres sentiments et donc ça c'est une grande liberté. Mais bien sûr que on raconte quelque chose et quoi. Alors c'est pas de la censure, c'est juste une forme de responsabilité pour savoir exactement ce qu'on est en train de raconter et ce qu'on veut raconter, évidemment. On va pas...
C'est le genre de choses avec qui vous échangez, avec des théologiens, des prêtres et tout ça, pour éclairer une ou deux choses.
Oui, je peux le faire. Enfin, là, franchement, je ne l'ai pas vraiment fait. D'abord, parce
après,
que
vous êtes nourri aussi de tout ça. Hein.
Mais effectivement, en tout cas, je me suis inspiré, ce que je peux dire, c'est que je me suis inspiré de textes, d'interprétations, de lectures, qu'elles soient exégétiques, théologiques, mais aussi littéraires, philosophiques. Voilà. Le texte est nourri de plein de choses qui vont au-delà de l'évangile. Il y a des citations du Talmud, beaucoup au début. En tout cas, je suis inspiré, j'étais très inspiré par tous les textes talmudiques sur la venue du Messie, puisque c'est quand même comme ça que s'ouvre l'évangile, hein, et avec cette idée très forte que résume Pascal, d'ailleurs la phrase de Pascal est dans le texte, que résume Pascal d'une façon comme ça magistrale, hein, Jésus n'est pas venu dans l'éclat attendu.
C'est une belle phrase, ça. On va se retrouver dans quelques instants. Nous évoquons aujourd'hui Jésus, l'histoire d'une parole. Un beau livre paru aux éditions Bayard. Et avec moi pour en parler, Frédéric Boyer. À tout de suite. O come, Emmanuel. C'est interprété par Anna Hawkins, qui chante en hébreu et en anglais. Et c'est, ça vient d'un hymne attribué aux franciscains du XIIe siècle.
Grand Angle, Faustine Fayette.
Alors aujourd'hui dans Grand Angle sur RCF, nous évoquons Jésus, l'histoire d'une parole, un livre graphique commis par Frédéric Boyer et Serge Bloch. Frédéric Boyer qui est avec nous pour en parler. Alors on a, j'ai posé quelques petites questions à Serge Bloch sur un peu ces passages compliqués à dessiner. Voilà, et je voudrais vous poser un peu les mêmes questions pour l'écriture. Est-ce qu'il y a des, il y a un passage d'évangile que vous avez voulu raconter, transmettre, on va dire, mais que vous avez eu du mal à écrire, à mettre en mots?
Oh, je dirais d'abord, c'est un peu comme Serge, ça a été toute la passion, parce que c'est un monument, c'est un bloc, et c'est, d'une certaine façon, c'est surreprésenté aussi, et surécrit aussi, puisqu'on a beaucoup. Donc, voilà, c'était compliqué, donc ça a été assez difficile. Je pourrais dire comment je l'ai pris, mais ça a été difficile. Et puis, évidemment, ce qui va avec, c'est-à-dire l'après de la crucifixion, l'après de la passion, le tombeau vide et l'idée de la résurrection, et la foi en la résurrection, qui même, d'ailleurs, dans les textes évangéliques, est quelque chose de très délicat à interpréter. Hein, et donc, effectivement, là, c'était encore plus délicat pour nous. Donc voilà, c'est plutôt ce diptyque-là qui a été difficile.
Et des mots qui sont venus comme une évidence? Un passage, est-ce que...
Non, mais d'abord, j'ai eu des idées simples, voilà, c'est pour revenir à ce qu'on disait au début. Ce qui est raconté dans la Passion, la première chose qu'il faut dire, finalement, d'abord, c'est que le Christ fait la traversée de la souffrance jusqu'au bout, voilà, et que, d'une certaine façon, c'est une épreuve et que plein d'entre nous ont connu, connaissent ou connaîtront, de toute façon, hein, voilà. La perte de quelqu'un, c'est quelque chose, effectivement, qui est aussi quelque chose de fondateur dans une vie. Et c'est ce que raconte l'histoire de la Passion. Hein, parce que ça n'est pas que l'histoire de la crucifixion et de la mort, c'est d'abord l'histoire de l'abandon, l'histoire de la trahison, mais plus généralement l'histoire de l'abandon. Voilà, donc tout le monde en fait l'expérience dans la vie. Donc il faut... Quand vous racontez cette histoire-là, effectivement, il faut la prendre, je pense, avec cette idée-là, que l'idée est de nous faire entendre quelque chose de l'abandon, quelque chose aussi de l'extrême de l'amour, qui est de traverser l'abandon jusqu'à la mort. Voilà, c'est quelque chose de très fort et de très beau. Donc, mais quand vous saisissez ça, bah c'est juste ça que j'ai voulu transmettre. Voilà. Il y a là ce témoignage de ce qu'on peut appeler l'extrême de l'amour, de traverser tout l'abandon jusqu'à sa propre perte, voilà. Donc il n'y avait pas besoin finalement de grandes images ni de grands mots pour raconter ça, parce que. Et ensuite, la chose difficile, c'était d'essayer en quelques chapitres, enfin non, en quelques pages et en quelques images, de raconter ce grand mystère qui est l'après-mort, voilà, et le témoignage de la résurrection. Ou voilà. Dans l'Évangile, comme je le disais, c'est fait de façon très mystérieuse et délicate, avec des ruptures, avec des absences, et très peu de récits, finalement, hein, pour raconter ça. Et donc, c'était pas évident à retransmettre, voilà, mais bon, je crois qu'on y est à peu près arrivé.
Et alors, vous inspirez sur la fin, vous reprenez un peu l'Apocalypse.
Alors, ça, c'est une grande question,
comment finir?
Voilà, c'était, alors bon, c'est un peu un...
Finir et ouvrir.
C'est un peu une provocation, voilà. Moi, je ne savais pas comment finir, voilà. Je ne voulais pas finir sur l'envoi en mission, tout ça, bon, parce que là, on était beaucoup plus dans la prédication et dans... Bon, et que c'était pas tout à fait le propre du livre de se terminer là-dessus. Et donc, je voulais trouver une fin un peu spectaculaire, finalement, et qui récapitule les choses. Et je me suis dit, si tu veux récapituler les choses, c'est l'Apocalypse, parce que le propre de ce livre est de récapituler l'histoire du salut. Hein. Avant d'être un livre qui annonce des catastrophes, c'est un livre qui récapitule toute l'histoire du salut, jusqu'au Christ.
Voilà. Apocalypse qui veut dire révélation.
Qui veut dire dévoilement, littéralement. Dévoilement. Et effectivement, donc, on dévoile la réalité de ce qui se passait. On dévoile l'histoire. Donc, alors... J'ai essayé, oui, en quelques pages, dans un petit chapitre, d'essayer de raconter ça, d'essayer que finalement, ce qui était devant nous, c'était l'histoire humaine, c'était l'histoire du monde, dans toute sa violence, dans toute son absurdité, et que l'histoire du salut, c'était justement cette histoire qui se confrontait à l'histoire humaine, à l'histoire des civilisations, à l'histoire des empires. Donc à l'époque, voilà, à la fin du premier siècle de notre ère, on parlait de Rome, de Babylone et des persécutions et des guerres qu'il y avait là-bas, et sous des formes à la fois très légendaires, avec des visions qui rappelaient les grandes visions prophétiques, mais aussi toutes les grandes visions de l'apocalyptique juive de la fin de l'ère précédente. Bon, mais finalement, ces images nous parlent encore aujourd'hui. Voilà, elles parlent de la monstruosité des empires, de l'horreur des guerres, de la division des peuples et de la difficulté, effectivement, à essayer d'entrevoir quelque chose, un espoir dans la noirceur de l'histoire humaine. Bah, c'est le sens de l'Apocalypse et j'ai voulu finir là-dessus, effectivement.
On voit dans vos mots aussi cette actualité de l'humanité. Et je ne sais pas si vous tweetez beaucoup, mais il y a certaines phrases.
Ah non, je ne tweete jamais.
On dirait presque des. Enfin, les jeunes diraient un punchline. Là je suis sur la partie de l'Apocalypse. L'espérance ne doit pas céder à la force. C'est une phrase hyper forte. Enfin, c'est.
En tout cas, c'est la grande signification de ce livre, l'Apocalypse. Hein. C'est-à-dire que on est confronté à la force et à la tyrannie, et à la guerre et à l'oppression. Et justement, c'est là dans cette épreuve-là que l'espérance doit tenir. Ouais.
Alors, vous avez parlé aussi tout à l'heure de l'abandon. Je voulais vous interroger un petit peu sur, avant d'entrer pleinement dans le récit évangélique, il y a cette introduction avec la vieille maison. Alors, je voudrais que vous nous en disiez deux mots. Parce qu'en plus, cette vieille maison, sous les traits de Serge Bloch, elle est... c'est à la fois... on est dépité et en même temps, on a un petit sourire quand même.
Non, mais c'est une image pour ouvrir... voilà, là, je peux pas trop, mais c'est une image pour ouvrir, c'est-à-dire à quoi va s'adresser tous ces textes, à quoi s'adresse la parole évangélique. Sincèrement, je pense qu'elle s'adresse à notre propre relation à l'existence, voilà. Et donc, l'ouverture se fait ainsi. Trop souvent, l'existence humaine, l'existence de chacun ressemble à une maison abandonnée. Et il faut qu'une parole résonne pour que l'on habite cette maison. Et l'évangile nous conduit, d'une certaine façon, à avoir la foi, la force, l'espérance d'habiter l'existence comme notre maison. Tout comme le Christ, là je deviens un prêcheur, mais tout comme le Christ est venu habiter l'humanité. C'est quelque chose. Et s'il est venu habiter l'humanité, c'est pas pour, c'est précisément pour signifier que l'humanité est ce lieu auquel nous devons tenir et auquel nous devons apporter toute notre attention et notre bienveillance. Voilà. C'est quelque chose de très fort, hein. C'est-à-dire qu'un Dieu incarné, ça veut dire ça, hein. Ça veut dire que l'humanité est le lieu du salut. Et donc c'est le lieu où l'on doit faire porter tous nos soins, toute notre connaissance et toute notre attention. D'une certaine façon, le Christ est venu dire que vous avez abandonné l'humanité. Voilà. Vous avez abandonné votre existence. Et moi, je viens l'habiter. Voilà.
Dans cette année qu'on vient de vivre, comment le lecteur va recevoir, à votre avis, ce livre ? Est-ce qu'il y a des messages qui vont paraître peut-être avec plus de force ?
Oui, tout à fait. Bah, de toute façon, j'insiste beaucoup dans le livre à l'attention aux plus fragiles. Bon, voilà, ce qui est quelque chose. Toute cette année, toute cette crise sanitaire mondiale a révélé une grande chose, c'est qu'effectivement, la culture humaine même passée par la culture humaine ne peut pas tenir sans une attention permanente à la fragilité de la vie, mais à la fragilité des plus fragiles, et que sans cette attention là on voit bien que la culture humaine se dissout. Voilà. Et la crise pandémique, enfin, une des grandes leçons de la crise pandémique, ça a été celle-ci. Une des grandes leçons spirituelles de la crise pandémique, ça a été celle-ci. Ouais.
Parmi les mots qui vous touchent, en tout cas que vous avez que vous utilisez, je vois plusieurs fois, il y a cette attente et l'inattendu qui peut être violent et en même temps qui peut apporter du renouveau aussi dans nos vies.
Oui, mais c'est parce que il fallait aussi, c'est une grande question théologique, hein, il fallait aussi amorcer cette histoire. C'est-à-dire, comment est venue cette histoire du Christ? Voilà, c'est que c'est tout un peuple qui attendait quand même. Alors, c'est-à-dire, c'est tout le peuple juif qui attendait, et toute la littérature juive. Et toute la foi juive des siècles qui ont précédé la venue du Christ, c'était des siècles d'attente. Mais comme je le dis dans le livre, tout le monde n'attendait pas la même personne, ni tout le monde n'attendait pas la même chose finalement. Mais ça, c'est normal. Voilà. Et est-ce que ce serait un roi? Est-ce que ce serait un roi comme David? Est-ce que ce serait un guerrier? Est-ce que ce serait un prêtre, le grand prêtre de Jérusalem? Est-ce que ce serait un prophète comme Élie, etc. Donc, l'évangile commence comme ça. Voilà. Elle commence dans cette attente dispersée en quelque sorte, éclatée. Et finalement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, celui qui va arriver n'est pas celui qu'on attendait. En tout cas, il n'a pas les traits qu'on lui prêtait forcément. Comme le dit Pascal, je répète, hein, il n'est pas venu dans l'éclat attendu. Donc à partir de là, pourquoi? Parce que nous sommes provoqués et que nous devons travailler à une reconnaissance. Ça serait trop facile si, effectivement, on avait un super-héros, si vous voulez. Donc c'est pas un super-héros. Il arrive et c'est à nous de le reconnaître. Voilà.
Alors que peut-on espérer, que peut-on attendre en 2021? En tout cas, peut-être, quelles sont vos espérances à vous?
Non, je vais être très banal, mais enfin, c'est quand même nécessaire. Non, il faut espérer que toute la situation sanitaire que nous vivons, qui est très difficile, s'apaise. Hein. Je le dis pas seulement pour les malades, d'ailleurs, je dis pas seulement pour ça, même si c'est aussi pour eux, et d'abord pour eux d'une certaine façon, mais je dis parce que cette crise, elle révèle nos fragilités, et elle révèle nos exclusions aussi, voilà. Moi, je suis assez inquiet pour la jeunesse aujourd'hui, voilà. Cette crise sanitaire, on est passé un peu à côté de la jeunesse, et c'est elle qui souffre beaucoup aujourd'hui, voilà. On parle beaucoup des vieux, et c'est très bien, on parle beaucoup de nos aînés, on parle beaucoup des malades, et c'est très bien. Mais je pense que cette crise m'inquiète assez du côté de la jeunesse. Je pense qu'on n'a pas assez réfléchi et qu'on n'a pas assez aidé les jeunes dans cette crise. Voilà. Et que je pense qu'il y aura des conséquences assez difficiles dans les mois et les années qui viennent.
Jésus, l'histoire d'une parole, c'est ce livre qui vient de paraître aux éditions Bayard. Il est accompagné de 12 épisodes, alors on peut dire dessin animé.
Oui, moi je dis film d'animation.
Film d'animation,
c'est voilà. C'est strictement du dessin animé. Oui, c'est 12 épisodes de 4 minutes chacun à peu près. Voilà, qui ont été diffusés par le Jour du Seigneur, qui vont être diffusés par KT aussi et qui bientôt seront disponibles en DVD.
Voilà, donc à retrouver, évidemment, aux éditions Bayard et puis sur Internet. Jésus, l'histoire d'une parole. Alors, vous avez aussi, vous, dans votre actualité, donc publié un livre, Sous l'éclat des flèches, hein, qui est paru, il y a quelques mois, enfin quelques semaines, on va dire. Donc, c'est aussi, ce sont des chroniques hein, qui sont parues dans le quotidien La Croix.
Voilà.
Et donc, où on va retrouver aussi ce dont vous parlez, de l'espérance, voilà, l'attente, l'inattendu. Donc Frédéric Boyer, Sous l'éclat des flèches. Eh bien, merci beaucoup Frédéric d'être venu partager votre travail autour de Jésus, l'histoire d'une parole. Ce travail avec Serge Bloch que nous avons entendu aussi dans cette émission. Vous retrouvez le podcast de cette émission sur rcf.fr. Merci beaucoup Pierre qui a réalisé cette émission. Et restez avec nous sur RCF tout de suite, tout doux, avec Vincent Bellotti et son invité Antoine Duléry.